Donc on a rencontré le conseil des jeunes. C'était, moi j'ai trouvé que c'était intéressant de voir un peu leur problématique. Alors c'était un petit peu centré bien sûr sur le pôle enfant-jeunesse et leurs préoccupations quotidiennes, mais je pense qu'ils seront quand même, ça fait une bonne équipe et ils seront force de proposition. Ça va être dur pour moi, je vois pas grand-chose, mais c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave, Frédéric. Vous voulez toujours me mettre en difficulté, c'est pas grave. Donc on va commencer le conseil municipal, le dernier de l'année. Je vais demander à Mireille Papin si elle veut bien assumer le secrétariat. Très bien. Et nous avons des procurations. Donc, comment ? Oui. Lise Lafont qui donne procuration à Mireille Papin. Christophe Talia qui donne procuration à Antoine Di Paolo. Et Corinne Moore, alors je ne sais pas si elle va arriver tard ou pas, mais je ne pense pas, qui me donne procuration. Donc, premier point de l'ordre du jour. Alors, je ferai des communications à la fin dans le cadre des questions diverses. Et puis, on vous distribuera également deux documents que je commenterai avant de vous les donner. Donc, premier point de l'ordre du jour, c'est l'approbation du procès-verbal de la dernière séance. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent par rapport à ce procès-verbal ? Donc, qui est pour ? Et il est adopté à l'unanimité et je vous en remercie. Deuxième point de l'ordre du jour, c'est l'état des décisions du maire. Donc, comme à chaque fois, on vous passe ensemble des décisions qui m'ont été soumises compte tenu de la délégation que vous m'avez confiée. Moi, j'ai pas de commentaire particulier à faire par rapport à ces décisions. Des remarques par rapport à ça ? Donc, je vous remercie. Et nous allons passer tout de suite donc au point numéro 2, qui est très bref. Donc, c'est la cession, donc le projet de vente de la parcelle AO81 à la société Innovi. La commune est propriétaire de la parcelle cadastrée AO81, d'une surface totale de 6336 m², 1 rue Gutenberg, donc à côté, dans l'extension du lycée Nord Simone Veil. Sur cette parcelle, la SAS Innovi a déposé le 4 août 2023 un permis de construire pour la création d'un bâtiment de bureaux et de 152 places de stationnement. Il y a eu un article, vous l'avez vu, qui devrait accueillir l'AMF 42, l'AMR 42, le centre de gestion, le centre de formation, mais également deux laboratoires de recherche associés au CHU. Le permis de construire, la semaine dernière, a été accordé. Donc la SAS Innovi a proposé à la commune d'acheter la parcelle AO à raison de 1 315 000 €. Il vous est donc demandé de m'autoriser à entreprendre auprès de la société Innovi toutes les démarches pour finaliser la vente de la parcelle AO81 et à signer toutes les pièces et tous les documents nécessaires. Avez-vous des questions par rapport à cette délibération que l'on peut considérer comme succincte, mais on en avait déjà parlé à plusieurs reprises, puisque M. Nuiri de la société Innovi vous avait présenté son projet donc de création d'un immeuble sur ce site. Des questions par rapport à ça ? Donc on va mettre aux voix cette décision. Qui est contre ? Donc 1 315 000. Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc la décision est adoptée à l'unanimité et je vous en remercie. Je vais passer la parole à Christine Gezins pour la signature d'une convention de partenariat financier avec la ville de Lettra.
Bonsoir. Donc, nous vous proposons de renouveler la convention de partenariat financier avec la ville de Lettra. Cette convention permet d'intégrer les élèves de cette commune qui souhaitent participer à une ou plusieurs disciplines artistiques dispensées au sein de l'EMA. Cette convention permet de prioriser les élèves de l'ETRA lors de leur inscription à l'EMA. Et nous recevons 9 000 euros de subventions en contrepartie. Donc cette année, il y a 25 élèves qui suivent les cours de l'EMA. Donc je vais vous lire la délibération. Monsieur le maire expose, le conseil municipal a approuvé une convention de partenariat financier avec la ville de l'ETRA afin d'intégrer des élèves de cette commune souhaitant pratiquer les disciplines artistiques dispensées au sein de notre école municipale des arts. Il convient aujourd'hui de renouveler cette convention avec la ville de l'ETRA jusqu'au 31 août 2024 et d'autoriser Monsieur le maire à la signer.
Des questions par rapport à cette convention de partenariat? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Cette convention est donc validée à l'unanimité. Je vous en remercie. Le point suivant, c'est le protocole d'accord transactionnel avec la société Maeva. Dans le cadre de la cession des parcelles AA103, AA104 et AA105 rue du Péchier à la société Maeva, je vous demande de bien vouloir approuver et m'autoriser à signer le protocole d'accord transactionnel établi entre la commune et cette société. Ce protocole a été établi pour fixer d'un commun accord le montant d'indemnité qui sera versé à cette dernière. Donc vous avez le protocole. Je ne vais pas vous le lire dans sa globalité. Simplement, souvenez-vous, la vente à la société Maeva a été formulée en début d'année. Le terrain du Péchier, donc, qui se trouve en face le canopé, entre Leroy Merlin et la Stas. Et lors des premiers travaux, ils se sont aperçus que ce terrain comportait des terres polluées. Donc on en a parlé à plusieurs reprises. Différentes options, s'offraient à nous. Soit on disait, écoutez, les terres sont polluées, on ne le savait pas. Donc il n'y a aucune raison qu'on participe à ce traitement des sols. Et dans ce cas-là, on s'exposait, un, à une remise en cause de l'acte de vente. C'est le juge qui aurait statué. Et surtout, un blocage de l'évolution du chantier. Donc on s'en est parlé, c'était au début de l'été. On a acté que pour permettre à cette société d'avancer, et compte tenu du fait qu'on n'avait pas envie de s'engager dans des procédures judiciaires qui pouvaient être très longues, on allait participer au coût de la dépollution. Ensuite, on en a reparlé à l'automne et on s'est fixé comme objectif, compte tenu des estimations qu'on avait à l'époque, un peu plus de 100 000 euros, de prendre en charge 60% du coût de la dépollution. On a donc aujourd'hui un projet de convention qu'on a rédigé, que notre avocat a rédigé, qu'on a soumis à la société Maeva, Kellips. Et pour ce faire, il a fallu qu'ils nous fournissent des éléments financiers. Donc très concrètement, c'est l'article 2 de la convention. Le surcoût lié aux travaux de dépollution a été évalué à la somme globale de 94 116,48 € hors taxes, soit 112 939,77 € TTC, donc un tout petit peu moins que ce qui était prévu au départ. Compte tenu de la répartition fixée à l'article 1 ou article 1er du présent protocole, cette somme sera acquittée par la commune de Saint-Priest-en-Jarez à hauteur de 56 469,88 € hors taxes, soit 67 763,86 € TTC, et par la SI Maeva à hauteur de 37 646,60 € hors taxes, soit 45 175,92 € TTC. Donc voilà le protocole issu des différentes rencontres que nous avons eues avec cette société. Vous avez pu remarquer que l'immeuble avance très bien. C'est une société donc d'intérim, je vous le rappelle, qui a actuellement son siège à Andrézieux, qui se développe énormément, parce que je crois qu'ils en sont aujourd'hui à 8 ou 10 agences à travers la France. Et aujourd'hui, enfin, quand on les a rencontrés encore récemment, ils nous ont dit que de 15 collaborateurs du siège, ils allaient sans doute à la fin des travaux passer à 40. Collaborateurs, puisqu'ils installent une agence au rez-de-chaussée et l'ensemble de leurs services et de leurs sièges sur les autres étages. des questions par rapport à ce protocole, mais on en avait déjà parlé à plusieurs reprises. Des questions particulières ? Donc on va le mettre aux voix. Qui est contre ce protocole ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc ce protocole est validé à l'unanimité et je vous en remercie. Le point suivant, c'est la convention avec l'association Le Rucher de la Bargette et je passe la parole à Mireille.
Bonsoir à tous. Donc c'est le renouvellement de cette convention avec Le Rucher de la Bargette. Il n'y a rien de nouveau, c'est donc juste un renouvellement et il concerne trois emplacements, les jardins familiaux, donc où initialement il y a eu le Rucher de la Bargette, le terrain du Cré, Rucher du Cré, et terrasse de l'hôtel de ville où nous avons deux ruches qui, bon, malheureusement, ont été victimes des frelons asiatiques. Cette convention, elle est donc conclue pour une période de 2 ans et renouvelable par reconduction express, sachant que toute nouvelle installation doit être soumise à l'accord préalable de la ville. Donc, je vous lis la délibération. Monsieur le maire expose. L'association Le Rucher de la Bargette a pour but de promouvoir l'apiculture et la biodiversité. Cette dernière gère un rucher collectif sur un terrain communal situé à proximité des jardins familiaux, un rucher sur la terrasse de la mairie et sur un terrain communal du Cré. Une convention de suivi de ruches a été établie entre la commune et l'association et votée lors de la séance du 13 décembre 2021. Cette convention arrive à échéance, il convient donc de la renouveler. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver cette convention et d'autoriser monsieur le maire à la signer.
Des questions par rapport à la convention avec les ruchers ? Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc, on renouvelle cette convention de partenariat. Alors, c'est vrai qu'en particulier, les deux ruches de la mairie ont été fortement impacté par les frelons. Je vous rappelle que lors du dernier conseil, on a décidé de prendre en charge 50 euros par destruction de nids de frelons. Pour l'instant, on n'a pas eu d'habitants qui se sont manifestés. Non, mais bon. Et il faudra d'ailleurs qu'on s'interroge pour la suite parce que d'après les apiculteurs, ce qu'on a connu cette année, ça a été quand même assez brutal. Je crois qu'on a dû identifier 10 ou 12 nids sur la commune. Ils s'attendent à une recrudescence très importante de ces nids sur la prochaine saison. On a une ruche qui a été complètement détruite et l'autre, malheureusement, ce qu'il en reste est très inquiétant. Le point suivant concerne le règlement de mise à disposition des bâtiments sportifs communaux et de leurs locaux attenants. Afin d'assurer le respect des installations sportives de la commune, il convient de fixer les règles générales d'utilisation des bâtiments sportifs communaux et de leurs locaux attenants et de réglementer leur fonctionnement dans l'intérêt du bon ordre, de l'hygiène et de la sécurité publique. Le règlement de mise à disposition des bâtiments sportifs communaux et de leurs locaux attenants définit l'accès et les conditions d'utilisation des équipements sportifs de la commune. Je vous demande donc d'approuver le règlement de mise à disposition des bâtiments sportifs communaux et de leurs locaux attenants. Ce qui nous a amené, si vous voulez, à mettre en place ce règlement, actuellement donc destiné aux associations sportives, c'est pour l'essentiel les structures, donc le stade municipal de la Bargette, situé rue Léo Lagrange, qui concerne essentiellement les activités de football, le tennis couvert de la Bargette, situé rue Léo Lagrange. Je vais faire une petite parenthèse là-dessus. On a un gros souci sur ce site du tennis couvert, puisque sur le terrain couvert numéro 2, on a détecté un souci de structure métallique, qui risque de provoquer son écroulement. Donc on a pris un arrêté d'urgence, de mise en péril, et la première recommandation de la société qui travaille avec nous et qui a détecté cette anomalie, c'est de dire qu'il faut que si la structure devait s'écrouler, qu'elle tombe du côté du terrain et pas du côté de la rue. Donc, c'est vous dire quand même qu'il y a un enjeu particulièrement inquiétant. Donc, on attend très prochainement des préconisations techniques. Vous avez compris qu'il y aura sans doute derrière un impact budgétaire très conséquent. On vous tiendra au courant. Donc, troisième site, c'est l'espace loisir de la Bargette situé rue Léo Lagrange. Et enfin, le gymnase côtier d'Ojo situé rue Claudius Côtier. Ce qui est important dans cette convention, ce règlement de mise à disposition, c'est l'article 2 qui stipule que, article 2, conditions d'accès et d'utilisation, en dehors des manifestations exceptionnelles organisées par la commune, l'accès aux installations sportives est réservé aux strictes activités physiques et sportives. À ce titre, elles sont accessibles aux établissements scolaires de la commune, aux services municipaux, aux associations, aux pompiers et aux spectateurs dans le cadre de certaines manifestations. Toute utilisation autre non prévue par le dit règlement, qu'elle soit intellectuelle, artistique, sociale, religieuse, politique, culturelle, etc., est strictement interdite sans l'accord préalable et écrit du maire de Saint-Priest-en-Jarret. La commune se réserve le droit d'interdire l'accès aux installations sportives, notamment pour des raisons de sécurité de travaux à toute personne ne respectant pas ce règlement ou pour toute autre raison tout au long de l'année. Les équipements et locaux sont mis à disposition à titre gratuit en l'état. L'utilisateur déclare parfaitement les connaître et est tenu de les rendre également en l'état. Donc voilà. Alors je vous passe les autres articles, sauf si vous avez des questions dessus. Cette demande nous a été formulée par des associations sportives pour clarifier en particulier l'utilisation des locaux, bien évidemment, et les comportements qui pouvaient s'y développer, qui n'avaient pas forcément un lien direct avec les activités pratiquées. Donc voilà, on a mis en place ce règlement qui s'imposera à l'ensemble de ces structures. Des questions par rapport à ça ? Ben, on va le voter alors, s'il n'y a pas de questions. Donc, qui est contre ce règlement, un règlement de bon sens et qui ne fait que rappeler ce qui devait être au départ une évidence. Qui s'abstient? Donc, qui est pour? Donc, ce règlement est adopté à l'unanimité et je vous en remercie. Nous passons ensuite à une convention de mise en commun des agents de police municipale de Villars et de Saint-Priest-en-Jarret. Et c'est Antoine qui va nous faire le point là-dessus.
Oui, bonsoir. Donc, c'est une nouvelle convention puisqu'on souhaiterait mettre en commun nos deux polices municipales, c'est-à-dire Villars et Saint-Priest-en-Jarret. Monsieur le maire expose, les communes de Villars et Saint-Priest-en-Jarret souhaitent mettre en commun leurs effectifs de police municipale selon les dispositions de l'article L512-1 du Code de sécurité intérieure et signer une convention qui définira les modalités de mise à disposition de ces agents. Cette convention permettra aux 9 policiers municipaux, 5 policiers municipaux pour la ville de Villars et 4 policiers municipaux pour la ville de Saint-Priest-en-Jarret d'intervenir sur leur territoire respectif. Je vous en lis les articles les plus importants. Article 1. L'article L512 du Code de la sécurité intérieure autorise la mise en commun d'un ou plusieurs agents de police municipale entre les communes formant un ensemble de moins de 80 000 habitants d'un seul tenant. Les communes de Villars et Saint-Priest-en-Jarret décident de mettre en commun leurs effectifs de police municipale selon les dispositions de l'article L512-1 du Code de sécurité intérieure, ce qui permettra aux policiers municipaux d'intervenir sur leur territoire respectif. Le nombre d'agents concernés par la présente convention est de 5 policiers municipaux pour la ville de Villars, 4 policiers municipaux pour la ville de Saint-Priest-en-Jarret, soit au total 9 agents mis à disposition. Article 2. Conditions de mise à disposition. Les agents de police municipale mis à disposition sont compétents sur le territoire de chacune des communes signataires de la convention de mise à disposition et dans les domaines cités par l'article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales. Les polices municipales de Villars et Saint-Priest-en-Jarret assurent notamment la coordination de leur mission sur les thématiques suivantes. Intervention dans les manifestations exceptionnelles, sécurité routière, contrôle de vitesse, patrouille pédestre, renfort ponctuel sur une intervention urgente dans l'attente de l'arrivée d'un équipage de la police nationale. Hormis les interventions urgentes qui sont prises à l'initiative des policiers municipaux présents sur le terrain, les autres actions de coordination sont décidées conjointement par les maires, les élus en charge de la sécurité ou en dernier ressort par les directeurs généraux des services. Les dommages susceptibles d'être causés dans le cadre de l'exécution des missions confiées par les bénéficiaires de la convention aux agents des services de police municipale mis à disposition relèvent de la responsabilité exclusive dans le cadre des contrats d'assurance souscrits à cet effet. Comité de suivi, article 6. Un comité de suivi est créé pour réaliser un bilan annuel de la mise en œuvre de la convention, en examiner les conditions financières et, le cas échéant, être force de proposition pour améliorer le fonctionnement de la mise à disposition. Il est composé des maires des communes de Villars et Saint-Priest-en-Jarret et des élus en charge de la sécurité, d'un représentant de la police nationale, des responsables de services municipaux de Villars et Saint-Priest-en-Jarret, des directeurs généraux des services des communes. Durée de la convention. La présente convention prend effet à compter de sa signature par les deux maires pour une durée d'un an et renouvelable deux fois par tacite reconduction pour une durée de 3 ans maximum. Au terme des 3 ans, la convention ne pourra être renouvelée tacitement. Elle devra faire l'objet d'une nouvelle rédaction mettant à jour les conditions d'application. Elle pourra être modifiée par voie d'avenant acceptée par les deux parties et pourra être dénoncée par l'une ou l'autre des parties avec un préavis d'un mois. Donc, entre le maire de Villars, Jordan da Silva, et le maire de Saint-Priest-en-Jarret, Christian Servant. Je vous demande d'approuver la convention précitée pour une durée d'un an et renouvelable deux fois par tacite reconduction pour une durée de 3 ans maximum, et d'autoriser Monsieur le maire à la signer.
Alors, historiquement, il y a quelques années, on avait mis en place un CISPD, un comité intercommunal de sécurité et prévention de la délinquance qui unissait donc 6 communes de la périphérie stéphanoise, la police nationale, la gendarmerie nationale et la STAS. On a constaté, année après année, que ce CISPD ne fonctionnait plus parce qu'il n'avait plus vraiment de matière à se réunir. Et donc, au mois de septembre, on avait demandé sa dissolution auprès de la préfecture. Alors, je réfléchis, préfecture ou procureur, je ne sais plus. Je crois que c'est la préfecture. Qui a refusé en considérant que non, il y avait toujours des objets. Bon, très bien. Donc, Jordan da Silva et moi-même avions dit, dans ce cas-là, on va faire un CISPD à deux. Saint-Priest-et-Villars, où on travaille de façon assez régulière ensemble. Pour l'instant, on n'a pas de retour, mais enfin, un CISPD à deux ne correspond plus vraiment à une réalité, sachant que les deux communes sont en zone police. L'intérêt du CISPD, c'était aussi d'avoir des statistiques, des suivis, aussi bien au niveau de la police nationale que de la gendarmerie. Donc voilà, on vous propose une convention. Elle était parallèle à ce CISPD, ça faisait quand même pas mal de temps qu'on y réfléchissait, qu'il y avait aussi une demande de la part de nos polices municipales, qui sont de toute façon, dans les faits, amenées à travailler ensemble. Et donc, aujourd'hui, on vous la propose. Avez-vous des questions par rapport à cette convention de partenariat? Donc, vous avez bien compris le cadre qui est défini. C'est, bon, soit on prévoit des événements, je pense à certains événements, on va parler du 14 juillet, parce qu'il a lieu en même temps sur toutes les communes, mais par exemple, à Villars, la semaine prochaine, il va y avoir le marché de Noël ou des choses comme ça. Donc, on échange et on se prête nos policiers. Il y a aussi des actions communes qui seront menées. Alors, je pense en particulier sur les contrôles de STAS et puis les interventions qui peuvent se faire dans le parc de Villars ou tout autre événement ou intervention, éventuellement même en lien avec la police nationale, comme on le fait déjà pour les contrôles routiers. Donc, on va mettre cette convention aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient, qui est pour, donc à l'unanimité, elle est acceptée. Nous passons maintenant au point 8. Cession avec la mise en vente de parcelles de terrain. La commune est propriétaire de la parcelle cadastrée AO80 d'une surface totale de 6 336 m², sise 1 rue Gutenberg. Sur cette parcelle, la société Innovi a déposé le 4 août 2023 un permis de construire pour la création d'un bâtiment de bureau et de 152 places de stationnement. Lors de l'examen de ce permis, les services municipaux ont constaté que ce projet était implanté sur un terrain d'environ 7 400 m², correspondant donc à la parcelle AO81 et à une bande de terrain communale de 1 100 m² située le long de l'avenue Pierre-Mendès-France. Pour réaliser son projet, la SAS Innovi doit donc acheter la parcelle AO81, 6-1 rue Gutenberg, on l'a déjà vu, mais également la bande de terrain précitée que le conseil municipal a déclassée par délibération 23-11-19 du 7 novembre 2023. Sans cette bande de terrain de 1 100 m², le projet d'Innovi ne pourra pas voir le jour et ne serait pas, selon le porteur du projet, économiquement viable. Dans ce cadre, la SAS Innovi a proposé à la commune d'acheter ces deux parcelles à raison de 1 315 000 euros pour la parcelle AO81 et 385 000 euros pour la bande de terrain précitée, indispensable pour son projet, soit un montant total de 1 700 000 euros. Par avis du 8 novembre 2023, le pôle d'évaluation domaniale a indiqué que la valeur vénale de ces terrains était de 1 728 000 euros, mais que cette valeur était assortie d'une marge d'appréciation de 5%, portant la valeur minimale de vente sans justification particulière arrondie à 1 642 000 euros, soit en dessous de l'offre formalisée par la SAS Innovi. S'agissant de cette cession, les frais d'acte sont à la charge de l'acquéreur. Concernant la nature juridique de la parcelle AO81, après vérification auprès de son service juridique, la région nous a précisé qu'il n'y avait pas lieu de formaliser la désaffectation de l'usage scolaire de la parcelle concernée, puisqu'elle ne saurait en l'état être considérée comme matériellement affectée à l'usage scolaire. Je vous rappelle que sur le projet d'ensemble qui était affecté à un usage scolaire, il y avait le lycée, les bâtiments des enseignants, le gymnase et le terrain de sport. Il importe de rappeler que le Code général de la propriété des personnes publiques confère un fondement législatif à la définition jurisprudentielle du domaine public immobilier. En application des dispositions de l'article L2111-1 du CG3P, font partie du domaine public les biens appartenant à une personne publique et qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas, ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. A contrario, l'article 2211-1 du même code précise que font partie du domaine privé les biens des personnes publiques qui ne relèvent pas du domaine public. Même si, comme précisé précédemment, la parcelle précitée n'est pas affectée au service public de l'enseignement, comme nous le précise d'ailleurs la région, ni à l'usage direct du public, la commune souhaite néanmoins, par sécurité juridique, la considérer comme relevant de son domaine public. Conformément aux dispositions de l'article L2211-1 du Code général donc des collectivités publiques, un bien qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public cesse d'appartenir au domaine public à compter du jour où il a fait l'objet d'un acte de déclassement formel. Sauf disposition particulière, une simple délibération du conseil municipal suffit à faire sortir un bien du domaine public. Il est donc demandé au conseil municipal de constater que la parcelle AO81, 6-1 rue Gutenberg, n'est plus ni affectée à un service public ni à l'usage direct du public. Donc on la déclasse. En conséquence, de procéder au déclassement du domaine public communal de la parcelle AO81 mentionnée ci-dessus. D'approuver la cession à titre onéreux d'une parcelle de terrain telle que figurée au plan joint, située rue Pierre-Mendès-France, d'une superficie cadastrale de 1 100 m² environ, au profit de la SAS Innovi, moyennant le prix de 385 000 euros, et d'approuver la cession à titre onéreux de la parcelle cadastrée AO numéro 81-6-1 rue Gutenberg, d'une superficie cadastrale de 6 336 m² environ, au profit de la SAS Innovi, moyennant un prix de 1 315 000 euros, et de m'autoriser à signer toutes les pièces et tous les documents nécessaires. Donc vous avez également l'avis des domaines sur l'ensemble de cette propriété cadastrale. Avez-vous des questions? On déclasse pour pouvoir vendre ensuite dans les meilleures conditions juridiques. Donc ce n'est que l'aboutissement d'un processus qu'on vous avait déjà à plusieurs reprises présenté. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc cette décision est validée et je vous en remercie. Nous avons une autre session. Là aussi, on vous en avait déjà parlé. Mise en vente d'une parcelle de terrain. Par délibération 23-11-19, le conseil municipal a prononcé le déclassement du domaine public d'un terrain de 1272 m² issu de la parcelle AD253. Je vous rappelle que le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et des opérations immobilières effectuées par la commune et que toute cession d'immeuble ou de droit réel immobilier donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal est donc appelé à valider la cession d'une parcelle communale non encore cadastrée et d'en définir les conditions générales de vente. Le cahier des charges précisant l'ensemble des modalités de la vente est annexé à la présente délibération. Le prix fixé pour cette parcelle a été évalué par la Direction générale des finances publiques à un prix au mètre carré de 157 € minimum. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver la cession à titre onéreux du terrain précité non cadastré d'une superficie de 1272 m² issue de la parcelle mère AD253. D'approuver le cahier des charges joint à la présente et notamment le prix qu'il prévoit. D'autoriser le monsieur le maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à la cession de cet immeuble par vente de gré à gré, dite amiable, dans les conditions prévues par le Code général des collectivités territoriales et dont l'acte sera dressé par un notaire dans les conditions de droit commun. Est-ce que vous avez lu le document donc qui précise les modalités de vente? Donc c'est une vente de gré à gré d'un bien immobilier. C'est situé donc rue de Réosti et on vous l'avait présenté. Ça fait partie de l'ensemble du terrain sur lequel est situé aujourd'hui le groupe scolaire Jean Massé. Cette parcelle n'est pas nécessaire au projet immobilier qu'on vous présentera très prochainement. D'ailleurs, à ce sujet, on en reparlera, mais il y aura peut-être au mois de janvier un conseil municipal exceptionnel. Et donc, on va le mettre en vente sous la forme d'une vente de gré à gré. Donc, vous avez compris le système. Les personnes intéressées déposent un projet avec un prix. Et à une date donnée, on ouvre les propositions. Et celle qui nous correspond le mieux en termes de proposition et de prix est celle qui est retenue. Des questions par rapport à ça? Donc là aussi, on change un petit peu de mode de vente, de cession. L'idée, c'est effectivement, vous l'avez compris, d'optimiser le prix de la vente. Puisqu'en fait, on fixe un prix au mètre carré minimum. C'est un terrain qui est constructible vraisemblablement pour une maison ou un petit immeuble, je ne sais pas, on verra bien. Hein. Et donc, les personnes intéressées, personnes morales ou personnes physiques, nous fassent une proposition et on retiendra et le projet et le prix qui nous convient le mieux. Donc, on va passer au vote. Qui est contre le principe de cette cession? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc cette vente, le principe de cette vente est validé à l'unanimité et je vous en remercie. On va vous parler maintenant, on en parle maintenant depuis presque un an, de la fusion des groupes scolaires Jean Massé et Jules Ferry pour la rentrée 2024-2025. Vu le code des collectivités territoriales, notamment l'article L 2121-30, vu le code de l'éducation et notamment son article L212-1, vu la circulaire 2003-104 du 3 juillet 2003, vu les courriers du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Loire en date du 10 juillet 2023, alertant la commune sur une baisse des effectifs des écoles Jules Ferry et Georges Sand, considérant, et on peut rajouter bien évidemment Jean Massé, Considérant le constat alarmant d'une baisse constante des effectifs sur l'ensemble des groupes scolaires et principalement sur l'école Jean Massé, comme je viens de le préciser, considérant que la fusion permet une meilleure anticipation dans la gestion des effectifs dans les années à venir et peut également permettre de maintenir le nombre d'enseignants actuellement affectés sur la commune, considérant les différentes rencontres et réunions de travail pour préparer cette fusion avec Madame l'inspectrice de l'éducation nationale, considérant qu'un accompagnement et un dialogue est engagé depuis 2022 avec les enseignants, les parents d'élèves et les agents territoriaux des groupes scolaires concernés, considérant l'avis du conseil d'école de Jules Ferry du 9 novembre 2023 approuvant à la majorité le projet de fusion, considérant l'avis du conseil d'école de Jean Massé du 10 novembre 2023 approuvant à l'unanimité le projet de fusion, il est demandé au conseil municipal d'approuver la fusion des écoles Jules Ferry et Jean Massé en un seul groupe scolaire, d'implanter ce nouveau groupe scolaire dans les bâtiments d'école Jules Ferry en cours de rénovation et d'agrandissement, de fermer le groupe scolaire Jean Massé, de m'autoriser à procéder à la fusion des écoles Jules Ferry et Jean Massé et de la fermeture donc du groupe scolaire Jean Massé, qui prendra effet à compter de la rentrée 2024-2025, et de m'autoriser à solliciter l'avis de Monsieur le Préfet en vue d'une désaffectation des locaux du groupe scolaire Jean Massé. Donc, comme on vous l'avait expliqué, c'est une procédure administrative. On souhaite la création d'un nouveau groupe scolaire par le regroupement des écoles Jules Ferry et Jean Massé. Pour ce faire, on a besoin de l'autorisation de la préfecture qui, elle, va se tourner vers l'inspection académique pour nous donner l'autorisation de procéder à ce regroupement et à la création d'un nouveau groupe scolaire. Et puis, dans un deuxième temps, de procéder à la désaffectation, bien évidemment, du groupe scolaire Jean Massé pour nous permettre de le vendre. Donc, on est tout à fait dans le respect des procédures administratives. Cette dimension nous permet de figer, une fois qu'elle sera acceptée par la préfecture, donc par l'inspection académique, la préfecture se rangeant à l'avis de l'inspection académique, de figer les nombres de classes et donc les nombres d'enseignants pour la rentrée 2024-2025. Nous avons actuellement 5 classes dans le groupe scolaire Jean Massé. On aurait pu être à la limite d'une fermeture de classe encore à la rentrée, sachant qu'il y en a déjà une de fermée. Ça veut dire que si nos effectifs restent constants, ce qui est une hypothèse très théorique, on aura ces 5 classes qui seront intégrées dans le nouveau groupe scolaire à la rentrée 2024-2025 et donc avec les postes d'enseignants qui y sont rattachés. Donc on verrouille un petit peu l'évolution des effectifs et surtout des classes avec les enseignants. À effectif constant, ce qui n'est pas sûr, parce que, comme on vous l'a dit, l'inspection académique a attiré notre attention sur une baisse sensible des effectifs scolaires dans nos 3 groupes scolaires. Mais c'est un phénomène qu'on observe un peu partout. Des questions par rapport à cette démarche administrative ? Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? À l'unanimité, donc, nous validons cette démarche. Tout à l'heure, puisque j'en parle, on vous remettra un petit dépliant, puisque quand on a rencontré les conseils d'école, les parents nous ont encore dit « Ah, mais on n'est pas informé, ah, on n'est pas au courant, on ne sait pas ce qui va se passer. » Très bien. Bon, donc on leur a dit « Voilà, on a repris le grand fascicule qu'on avait fait, le petit dossier de presse, en fait, destiné, qu'on avait remis donc à notre député Quentin Bataillon, que j'ai envoyé à Madame Bussière, conseillère régionale, et à Madame Sylvie Fayol en tant que vice-présidente de la région, et non pas président de Saint-Étienne Métropole, qu'on a remis à monsieur le sous-préfet quand il est venu nous voir, qu'il a visité l'école et qu'il a été particulièrement, je dirais, attentif et a apprécié cette démarche. Donc, c'est un petit fascicule, le même que en modèle réduit, et qu'on va distribuer, et c'est en cours de distribution, à l'ensemble des enfants des groupes scolaires Jean Massé et Jules Ferry dans leur carnet de correspondance. Donc tous les parents auront ce petit fascicule qui reprend l'ensemble de l'historique. Et à la fin, alors on avait souhaité que les parents nous fassent remonter leurs questions. Remonter les questions, on leur avait dit vous nous les adressez et on y répondra. faute de questions qui nous sont remontées, on conclut en disant, si vous avez des questions, les élus vous répondront, chargez-nous de nous les faire remonter. Donc voilà, ce document sera diffusé à l'ensemble des parents d'élèves des deux groupes scolaires, vous en aurez un à la sortie de ce conseil. Et si on vous interroge, vous saurez quoi répondre. Point suivant. Alors, bon, obligé de vous le passer, c'est confus. C'est la convention d'objectifs et de gestion avec la CAF. Dans le cadre de la convention territoriale globale, la commune de Saint-Prix-en-Jarez souhaite poursuivre sa politique d'action en faveur de l'enfance et de la jeunesse. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver des termes et conditions de la convention d'objectifs et de gestion avec la CAF et de m'autoriser à signer, ainsi que tous les documents afférents. Pour l'historique de cette situation, le CTG, vous savez qu'on l'a signé il y a 2 ans, avec les communes concernées, donc Roche-la-Molière, Saint-Genélaire, Villars, Saint-Prié, La Tour et l'Étra. On a mis en place, dans le cadre de ce contrat territorial global, qui se substituait au contrat enfance-jeunesse, je crois, oui, c'est ça, un certain nombre de modalités de travail et de moyens. En particulier, en optant pour un supra-coordonnateur intercommunal, ce qui représentait un 0,3 équivalent temps plein, proposé par la mairie de Villars. Ce 0,3 a été financé pour moitié par la CAF et pour moitié par les 6 communes en fonction de leur population. Nous, on a organisé le job dating l'an dernier, qui a très bien marché. Donc, on a rempli notre obligation, celle pour laquelle on s'était engagé. Et puis, depuis, ça bloque. Ça bloque, on ne comprend pas bien ce que souhaite la CAF, on ne comprend pas bien ce que veulent faire les communes. Et puis on s'est aperçu que ce supra-coordonnateur n'avait pas forcément les moyens d'animer et de coordonner les politiques souhaitées par la CAF sur l'ensemble des 6 communes. Ben oui, évidemment, ce coordonnateur qui est un salarié de la commune de Villars, parfois entre en incompréhension, je dirais, avec les coordonnateurs et animateurs de chaque commune. Donc, lors de la dernière rencontre, on a eu un souci, puisque la CAF nous demandait de valider des fiches de poste, on peut les appeler comme ça, de l'ensemble de nos responsables, donc pour nous, c'est à Janssen, pour débloquer des financements. Et en disant, si on n'a pas ces fiches de poste, ben, il n'y a pas de financement. Très bien. Sauf que nous, on est quand même passé d'un financement dans le contrat enfant-jeunesse de 1 équivalent temps plein à, dans le cadre du CTG, à 1,5. Équivalent temps plein. Très bien. Et on nous demandait de simplement cette fiche de poste de nous dire ce que faisait Ayane dans le cadre du CTG par rapport à l'ensemble de nos fiches actions et fiches projets avec ce financement de 0,5. Donc il y a beaucoup de communes qui ont bloqué, en particulier Villars, et qui ont remis en cause le fait d'avoir un supra-coordonnateur. Nous, à l'époque, souvenez-vous, on avait été très pragmatiques. On avait dit il faut le recrutement d'une personne, donc un équivalent temps plein, hors commune, quelqu'un qui n'était pas impliqué également dans son territoire. Ça avait été refusé et par les communes et par la CAF. Très bien. Aujourd'hui, on bute sur cette problématique. Bon, on s'est rencontrés. Les échanges ont été un peu houleux entre les communes et la CAF. Très bien. Aujourd'hui, on vous propose de signer donc cette convention. Nous, on a validé, hein, très concrètement, la fiche de poste d'Ayane. Comme on leur a dit, vous voulez une fiche de poste qui équivaut à 0,5 équivalent temps plein, il n'y a pas de souci. On va vous faire la fiche de poste pour avoir nos financements. Voilà. Ça correspondra peut-être à une réalité totale ou partielle, on verra bien. On continue à être impliqué dans ce processus, c'est-à-dire que si d'autres communes proposent des actions, on s'y associera. Ce qui nous avait quand même un peu peiné, c'est que quand on a organisé notre job dating, dans le même temps, Saint-Genélaire organisait son propre job dating non labellisé CTG, mais bon, après tout, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, donc on s'est expliqué avec la CAF, on s'est dit ce qu'on avait à se dire, donc on signe un peu les documents parce qu'on n'a pas envie de bloquer pour bloquer, puis on a envie de continuer à avancer, à travailler. Donc voilà, donc simplement, alors, sauf si vous l'avez lu attentivement, cette convention d'objectifs et de gestion, alors comprenez quand même une chose, et ça je l'ai dit plusieurs fois, c'est que les CAF, les caisses d'allocation familiale, elles sont départementales, et elles dépendent de la CNAF, Caisse nationale l'allocation familiale. Et la CNAF signe une convention d'objectifs et de gestion avec l'État. Donc l'État impose des objectifs de gestion à la CNAF qui les répercute et les décline au plan de chaque département. Et malgré ce que dit la CAF, et moi je continue à l'affirmer, in fine, il y a bien la volonté d'économie d'échelle. Et là, on le voit bien, puisque sur les 6 communes, on avait, avant la CTG, 1,5 équivalent temps plein répartis sur les 6 communes. Et aujourd'hui, on n'en a plus que 0,5. Voilà. Donc, je vous demande de bien vouloir approuver les termes et les conditions de la convention d'objectifs et de gestion avec la CAF et de m'autoriser à signer les documents afférents. Des questions par rapport à ça ? Qui est contre? De toute façon, si on est contre, on n'a pas de sous. Qui s'abstient? Qui est pour? Donc cette convention est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Et je vais passer la parole à Michel Bisaccia pour les points suivants. Et le premier, c'est l'autorisation d'engager des dépenses d'investissement de la commune à Saint-Priest-en-Jarret avant le vote du budget primitif 2024.
Oui, bonsoir à tous. Donc, Monsieur le maire expose que conformément à l'article 116.12.1 du Code général des collectivités territoriales, qui dispose que jusqu'à adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le maire peut, sur autorisation du conseil municipal, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, et je parle bien que de dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris, bien entendu, les crédits afférents au remboursement de la dette. On parle bien que des crédits de travaux et que les crédits réels de travaux. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant et l'affectation des crédits. En effet, je vous rappelle que les dépenses d'investissement sont des dépenses pluriannuelles, qu'effectivement, il y a des projets qui ne sont pas arrivés à terme, des travaux qui ne sont pas arrivés à terme et qui seront donc reportés sur le budget primitif 2024. Il peut y avoir des dépenses urgentes d'investissement qui n'étaient pas prévues au budget 2023, mais qu'on devra faire en début d'année. Et comme le budget primitif 2024 ne sera voté que avant le 31 mars, mais en principe dans la dernière semaine de mars de 2024, il y a nécessité, pour que on puisse engager les travaux et surtout pour qu'on puisse les payer, de prévoir ces autorisations de travaux. Donc le montant total de l'autorisation peut porter au maximum sur 25% de 2 863 977,77, c'est la somme qu'on avait inscrite au budget primitif 2023, soit la somme de 715 994,44 €. Donc on vous demande d'engager certaines dépenses d'équipement prioritaires ou urgentes. Donc je vous fais pas la liste puisque vous l'avez, ça concerne des frais d'études, des logiciels, ça les logiciels c'est obligatoire puisque le renouvellement des licences se fait toujours en début d'année et c'est une dépense d'investissement, des remplacements de candélabres, des réseaux d'éclairage public, du mobilier urbain, de la signalétique, du matériel de voirie et espace vert. Alors je précise aussi que tous ces travaux-là ne seront peut-être pas faits avant le 31 mars. Ou que le matériel ne sera pas forcément totalement acheté avant le 31 mars. Mais pour être tranquille, et si jamais effectivement on en a besoin ou s'il y a de la casse sur certaines choses, il nous faut quand même de l'argent pour pouvoir fonctionner sur le premier trimestre 2024. Du matériel fête et cérémonies, sur les chaufferies, sur l'électroménager, du raccord sur le relais petite enfance et sur le jardin d'enfant, du matériel informatique, du mobilier de jardin. Donc après, on a regroupé toutes ces choses-là par chapitre, hein, donc les frais d'études, les subventions d'équipement, les concessions de voies et droits similaires, c'est là où on retrouve les logiciels, les installations de voirie, les autres installations matérielles et outillages, le matériel informatique, le matériel de bureau et immobilier, tous les autres qui ne rentrent pas dans ces catégories et qui est un peu le compte fourre-tout, et l'immobilisation corporelle en cours. Donc, en fait, on part sur la somme de 194 137 €. Vous voyez qu'on est loin des 715 994,44 € qui auraient pu être autorisés. Mais sachant que ces sommes-là, une fois qu'elles sont engagées, elles seront obligatoirement inscrites au budget primitif 2024. On ne peut pas dire, ah ben, on les prend maintenant et puis on se verra au mois de février. Ah ben non, on n'en a pas besoin, finalement, on ne les met pas. Donc là, on est obligé de les inscrire, d'où la nécessité de ne pas gonfler inutilement l'enveloppe, ce qui nous dérangerait et ce qui nous gênerait pour monter le budget primitif 2024, si jamais, effectivement, il y a des sommes dont on n'a pas besoin, mais on aurait besoin ailleurs. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment mis que ce qui était nécessaire en urgence. Et on donc vous demande d'approuver ces délibérations.
Alors, une petite précision, il y a 50 000 euros de frais d'études. Dans ces 50 000 euros, on a mis deux types de frais d'études qui ont un caractère d'urgence. Les études pour Georges Sand en termes de rénovation thermique et les études de réhabilitation, extension, rénovation de l'espace loisir. Pourquoi ? On pourrait attendre. On souhaite aller très très vite puisque vous savez que le plan de relance métropolitain a été prorogé jusqu'au 30 juin 2024, mais qu'à cette date, les communes doivent avoir déposé leurs ordres de service. Ça veut dire que il nous reste, on a utilisé deux cartouches, donc deux dossiers pour Jules Ferry. Le plan de relance prévoyait trois dossiers par commune dans la limite de 3 millions d'euros. Donc, on est dans cette démarche-là. Et si on veut encore déposer un dossier avant le 30 juin, il va falloir aller très vite. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse des études, qu'on valide un budget, donc qu'on ait de l'argent, qu'on lance des marchés, qu'on attribue les marchés et qu'on lance les travaux. Tout ça avant le 30 juin. Donc, par sécurité, on a mis cette somme-là. C'est pas certain qu'on ira jusqu'au bout. De toute façon, on trouvera des solutions pour Georges Sand. Et puis, très prochainement, on va discuter de l'évolution de l'espace loisir. Voilà. Des questions par rapport à ces deux dispositifs. Donc, ce sont des dépenses identifiées comme urgentes. Ça veut dire qu'il faut qu'on puisse les réaliser au cours du premier trimestre, avant le vote du budget primitif. Bien évidemment, on les retrouvera dans l'ensemble du budget d'investissement qu'on vous soumettra au mois de mars. Des questions ? Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? À l'unanimité, c'est adopté. Je vous en remercie. Le point suivant, c'est encore Michel, c'est l'inscription des biens meubles en section d'investissement.
Oui, alors cette délibération, on la retrouve effectivement toutes les fins d'année. Elle vous précise effectivement une inscription de biens de petite valeur en section d'investissement. Donc l'instruction du 23 décembre avait précisé que le seuil au-dessous duquel les biens meubles sont comptabilisés en section de fonctionnement était de 1500 francs, toutes taxes comprises. Bon, à l'époque, c'était bien sûr des francs. Bon, je vous passe tous les arrêtés qu'il y a eu ensuite pour modifier les montants, puisqu'on est passé de francs à euros. Et le dernier qui nous concerne, c'est l'arrêté du 26 octobre 2001 qui définit la liste des biens meubles constituant des immobilisations par nature, quelle que soit leur valeur unitaire. Et les biens meubles qui ne sont pas considérés comme des valeurs immobilisées par nature d'un montant inférieur à 500 euros peuvent être inscrits en section d'investissement sur délibération express de l'Assemblée sous réserve qu'ils revêtent un caractère de durabilité. Effectivement, vous savez que chaque fois qu'on achète quelque chose, on a un inventaire et on inscrit, si vous voulez, c'est notre patrimoine, on inscrit à l'inventaire le camion qu'on vient d'acheter, les tables qu'on vient de changer au Pôle Enfant Jeunesse ou n'importe quel bien qu'on achète. Mais effectivement, en dessous de 500 euros, normalement, on ne les inscrit pas à l'inventaire. Sauf qu'on a quand même des choses qui sont inférieures à 500 euros, mais qui ont quand même une certaine durée, comme des meuleuses, des radiateurs, des choses comme ça. Ça ne va pas durer forcément que 6 mois. Donc, on peut les inscrire à l'inventaire. Et l'avantage, c'est qu'une fois qu'on les inscrit à l'inventaire, on peut récupérer la TVA. Donc, c'est toujours intéressant. Par contre, ces biens étant considérés comme des biens de faible valeur, ils seront sortis de l'inventaire au 31 décembre 2024. Donc, quand en fait, on les inscrit que pour un an. Donc, il y a une meuleuse, des batteries lithium, un lamier. Demandez pas ce que c'est, je ne sais pas. 3 radiateurs à main d'huile et un bras de suspension écran ordinateur crèche. Donc, vous voyez, c'est quand même des petites sommes puisque le maximum, c'est 432 euros. Et ça ne va pas vraiment chercher loin. Mais on vous demande quand même d'autoriser à inscrire ces biens en section d'investissement. Parce que normalement, en dessous, ils sont inscrits en section de fonctionnement et donc on ne récupère pas la TVA.
Des questions par rapport à cette méthodologie comptable ? Donc, c'est du petit matériel. On les bascule en investissement pour récupérer la TVA. Moi, c'est aussi simple que ça. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc, cette décision est adoptée à l'unanimité. Point suivant.
Autorisation d'encaisser les recettes. Alors là, c'est pareil. Vous savez, quand on a des sinistres, des accidents, des choses comme ça, les assurances nous remboursent les dégâts qui ont été causés et on est obligé de faire une délibération pour approuver l'encaissement de ces remboursements. Et vous avez sur la page suivante les remboursements des sinistres. Donc, ça concerne essentiellement des chocs véhicules ou des chocs sur les candélabres ou sur les portails. Et c'est quand même une somme qui n'est pas neutre puisque en totalité, ça fait 22 280,76 €. Donc, on vous demande d'approuver le fait qu'on les mette en caisse. Je ne pense pas qu'on puisse vraiment s'y opposer. Sinon, on ne saura pas où les mettre.
Donc, voilà. Si vous ne validez pas, je ne sais pas ce qu'on va faire. Donc, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, donc on valide à l'unanimité, je vous en remercie. Le point suivant concerne la révision des tarifs communaux. Bon, vous savez qu'on actualise au 1er septembre les tarifs communaux, on actualise au 1er janvier. Première chose qu'on s'est dite, c'est que les tarifs relatifs au restaurant scolaire et à l'accueil périscolaire seront actualisés en juin 2024 avec effet de septembre 2024, comme c'est le cas pour l'École municipale des arts et le Pôle enfant jeunesse. Donc tous ces services seront à l'actualité à la même date, au 1er septembre, sur décision du Conseil du mois de juin. En ce qui concerne les cimetières, donc vous avez les nouveaux tarifs. Alors je vous passe les anciens tarifs. On a appliqué une augmentation de 5%. Un exemple, la concession était à 688, elle passe à 723, etc. etc. Les colombariums étaient à 760, ils passent à 798. Pour les déposoirs, on n'a pas du tout actualisé, on reste à 1 € et à 2 €. Ensuite, les tarifs de la médiathèque, donc on les actualisera en septembre, comme je viens de vous l'indiquer. La seule nouveauté, c'est qu'en termes de gratuité, on avait la gratuité pour les personnels communaux de la commune et on a intégré les personnels et retraités communaux de la commune. Donc, personnel d'activité et personnel retraité. Donc, pour l'école municipale des arts, on verra ça en juin. Le pôle enfant jeunesse, pour l'école du sport, on verra ça en juin. Et pour le centre de loisirs, également. Pour la ludothèque, on n'a pas changé les tarifs, également. Ça reste comme c'était. Pour les tarifs voirie, on n'a rien changé, sauf le numéro de tarif numéro 7 pour les terrasses des bars et restaurants, qui était à 100 €, on les a passés à 120 €. Même pas beaucoup. Hein ? Non, c'est pas cher. C'est pour ça qu'on peut se permettre de faire... Alors, ça va vous dire, ouais, mais ça fait 20%. Ouais, mais ça fait que 20 €. Voilà, c'est tout. Les consommations électriques, bon, les compteurs, on est passé à 200, on était à 176. On a fait un travail un peu plus conséquent sur les locations de salles. Donc, vous avez les nouveaux barèmes. Alors, pour le NEC et l'espace loisirs, donc on était à, pour les associations, à 390, on est passé à 400, on était à 300, on l'a laissé. Pour les associations extérieures, on était à 500, on est passé à 550. 400, on est passé à 450. 400, on est passé à 450. Pour les entreprises, on est passé de 500 à 550. De 400 à 450 et de 370 à 400. Donc, hein, c'est l'ordre de la colonne. Hein. Le NEC, l'espace loisir, la Villa Saint-Michel. Les entreprises extérieures, on était à 1200, on passe à 1300. On était à 1000, on passe à 1100. On était à 500, on passe à 600. Pour les réunions de copropriété, etc., pour l'atelier, on passe de 60 à 70 € et pour le grain d'orge, de 60 à 70 €. Pour les vins d'honneur, mariage extérieur sur la Villa Saint-Michel, on passe de 320 à 350 € et le reste reste inchangé. Il n'y a que la pénalité en cas de déclenchement d'alarme et intervention de Madet qui passe de 45,60 à 48 €. Et c'est le tarif que Madet nous demande puisque quand c'est le cas, on demande à Madet de facturer directement à la personne qui a loué la salle. Des questions par rapport à ces tarifs ? Et donc, vous avez compris la logique. On passera en masse l'ensemble des services à la population avec une date d'effet maintenant qui est figée au 1er septembre. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc, ces nouveaux tarifs, soit inchangés, soit actualisés, sont adoptés à l'unanimité. Et je vous en remercie. À toi, Michel.
Alors, la délibération suivante, toujours sur les finances, concerne la tenue de l'inventaire. Donc, c'est ce que je vous expliquais, hein, tous les biens qu'on achète on les inscrit en inventaire, mais de la même manière, quand on les vend ou quand on les met au rebut, par exemple un camion dont on se débarrasse parce qu'il est plus, à la benne, on est obligé de le sortir de l'actif. Donc là, effectivement, c'est ce qu'on vous propose. Alors, je ne vais pas vous donner tout le détail, mais ça concerne. Alors, il y a tout un jeu d'écriture assez compliqué entre le fonctionnement, l'investissement. On remet les mêmes sommes d'un côté et de l'autre. Ça s'appelle des opérations d'ordre. C'est un peu compliqué et ça apporte pas grand-chose. Mais simplement, il faut savoir qu'on a vendu une parcelle à D289 à La Charlière à monsieur et madame Garon. Donc pour 35 000 euros, donc vous voyez que on a enregistré une plus-value puisque ce bien-là était inscrit à l'inventaire pour une somme de 3 430,78. Donc on a fait une plus-value de 31 569,22 qu'on met en plus-value de cession et en différence sur réalisation négative. Et de la même manière pour une autre parcelle à La Charlière aussi, qu'on a vendu la somme de 60 000 euros, qui était inscrite à l'inventaire pour 5 983,96. Donc on a fait une plus-value de 54 016,04. Voilà, donc on inscrit aussi sur les mêmes programmes.
On appelle La Charlière, c'est le secteur de La Charlière d'un point de vue cadastral, mais c'est deux propriétés, vous savez, qui sont au fond de la rue Jean Moulin.
On a régularisé des situations où il y avait une partie des constructions ou de la piscine qui était en fait sur le domaine public. Donc voilà, donc on a des dépenses d'ordre pour 95 000 euros et des recettes réelles d'ordre pour en section d'investissement pour aussi 95 000 euros. Ça doit forcément s'équilibrer. Voilà, et après ensuite, vous voyez, il y a une liste de matériel qui a été mise à la réforme et qu'on effectivement, on doit sortir de l'actif pour le montant. Vous voyez, ça va du photocopieur à un tabouret, à un robot mixeur, enfin, tout ce qu'on peut avoir en bien et qui n'est plus utile, qui a été vendu ou dont on ne se sert plus. Voilà, mais ça, c'est nécessaire à faire toutes les années pour qu'on ait un inventaire qui soit conforme parce que le Trésor public tient aussi, lui, un inventaire. Enfin, il ne le tient pas, mais il vérifie notre inventaire toutes les années. Donc, on doit le mettre à jour forcément en fin d'année. C'est pour ça que vous voyez repasser cette délibération toutes les années au mois de décembre.
Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour cette mise à jour de l'inventaire? Donc, validé à l'unanimité. Point suivant, c'est l'inventaire comptable. Règles et durées d'amortissement.
Voilà. Alors, on a validé la dernière fois. Excusez-moi, mais je suis très enrhumée et j'ai du mal à parler en même temps. On a mis en œuvre la nomenclature budgétaire comptable M57 au 1er janvier 2024, hein, puisque jusqu'à maintenant, on était en M14. Et ça a introduit un certain nombre de nouveautés, notamment concernant le traitement comptable des immobilisations et amortissements, avec la mise en place de la règle du prorata temporis. Alors ça, c'est encore quelque chose qui... Alors je vous épargne toutes les délibérations qu'on doit remplacer. En fait, avant, lorsqu'on achetait un bien, donc par exemple, je sais pas, on achetait un camion, on considérait qu'on commençait à l'amortir, on l'achetait le 15 mai ou on l'achetait le 20 novembre, on considérait qu'on commençait à l'amortir au 1er janvier de l'année qui suivait. Donc c'était en année pleine, c'était plus simple pour la comptabilité. Maintenant, l'amortissement d'un bien débutera à partir de sa date de mise en service et non plus au 1er janvier. C'est-à-dire que si on l'a acheté le 15 mai, on le met en amortissement à partir du 16 mai et si on l'a acheté au mois de novembre, on le met au mois de novembre. Voilà. Donc ça, il est proposé de retenir. Donc l'instruction comptable fait évoluer le calcul des amortissements. Ça signifie qu'à compter du 1er janvier 2024, l'amortissement d'un bien débutera à partir de sa date de mise en service et non plus à partir du 1er janvier de l'année suivante de son acquisition. Par mesure de simplification comptable, il est proposé de retenir la date d'émission du mandat d'acquisition de l'immobilisation comme date de mise en service, car le mandat valide le service fait. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher le camion le premier jour qu'on va le faire tourner pour dire « Ah, ça y est, on va le mettre en amortissement. » À partir du moment où le mandat est fait, validé et payé, on considère que le bien est acquis et donc on va faire partir l'amortissement à partir de ce moment-là. Alors, on peut aussi justifier l'aménagement de la règle du prorata temporis pour certains types de biens et les biens de faible valeur. On retrouve un peu ce qu'on a retrouvé tout à l'heure, c'est-à-dire des immobilisations qui n'ont pas volonté à rester dans l'inventaire une fois amorties. hein, ce qu'on a vu tout à l'heure, les biens de faible valeur. Donc, il est proposé que les biens de faible valeur, c'est-à-dire ceux dont la valeur unitaire TTC est inférieure ou égale à 500 euros, on retrouve le même plafond que tout à l'heure dans l'autre délibération, ou les lots de faible valeur inférieure ou égale à 7500 euros, soient amortis en totalité sur l'année suivant leur acquisition. C'est-à-dire qu'on reste sur la même règle, les biens de faible valeur ne seront amortis que sur une seule année. Alors, je vous passe peut-être, je ne vais peut-être pas vous lire tout le reste de la délibération qui n'a pas forcément un intérêt, c'est tous les subdivisions de compte et tout. Voilà. Donc, on vous demande, le maire propose au conseil municipal donc d'adopter les durées d'amortissement des immobilisations listées en annexe du budget soumis à la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2024, de considérer la date d'émission du mandat d'acquisition de l'immobilisation comme la date de mise en service, que je viens de vous expliquer, de dire que tout plan d'amortissement commencé avant le 31 décembre 2023 se poursuit jusqu'à son terme selon les modalités définies à l'origine, c'est-à-dire qu'on ne va pas reprendre le prorata temporis pour tout ce qui est déjà inscrit à l'inventaire, mais uniquement pour les nouveaux biens ou les nouveaux services qui sont susceptibles d'immobilisation, de définir le montant des biens de faible valeur à 500 euros et le lot de biens de faible valeur à 7500. On peut considérer un lot, ça peut être par exemple un lot de matériel de voirie. On a acheté une débroussailleuse, une tronçonneuse, une visseuse, on considère que c'est un lot de matériel de voirie et on porte le seuil à 7500 euros. Pardon ? L'étape du conseil, voilà, cher monsieur le maire. De calculer l'amortissement pour chaque catégorie d'immobilisation au prorata temporis pour les biens comptabilisés en M57 à l'exclusion des biens de faible valeur et d'abroger toutes les délibérations qui avaient été prises auparavant et dont je vous fais grâce de l'énumération. Et derrière, vous aviez toutes les durées d'amortissement. Vous voyez qu'en fonction de la nature du bien, les frais de l'amortissement ne sont pas pareils. On amortit un frais d'étude en 5 ans, mais on va amortir la construction d'un immeuble de rapport sur 30 ans. Bon, c'est logique. Et ça, c'est effectivement défini par délibération auparavant. Et on sait exactement, en fonction du bien qu'on achète, la durée d'amortissement qu'on aura à inscrire au budget. Voilà.
Donc en fait, si vous voulez, pour ceux qui ont pratiqué la comptabilité privée des entreprises, on est en train de se caler sur la comptabilité des entreprises. Le prorata temporis existe déjà, et c'est cohérent, puisque l'amortissement, c'est une anticipation de la détérioration de la valeur d'un bien. Donc là, on attendait l'année suivante, mais à la limite, en exagérant presque, même si le bien avait été détruit entre-temps. Donc là, on démarre au jour de sa mise en service. Donc de toute façon, on vous le propose bien évidemment, mais c'est quelque chose qui s'impose à nous au niveau des directives ministérielles. Donc qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Donc ces règles comptables s'appliquent à partir de maintenant. Et je vous en remercie. Le point suivant, c'est les subventions donc dans le cadre du système de vidéoprotection. Et c'est Antoine qui nous le présente.
Donc, extension du système de vidéoprotection, subvention de la région. Rappel d'information, monsieur le maire expose. Dans le cadre de la politique de sécurité, de prévention de la délinquance et d'amélioration de la tranquillité publique, la commune poursuit le développement de ses installations de vidéoprotection en coopération avec les services chargés de la sécurité publique. Pour rappel, les objectifs de ces dispositifs de vidéoprotection sont de dissuader le passage à l'acte délinquant, améliorer le sentiment de sécurité des habitants, servir le travail d'enquête, permettre une intervention des forces de l'ordre adaptée à la situation, faciliter l'administration de la preuve en justice par les services de police. La région Auvergne-Rhône-Alpes souhaite accompagner financièrement les communes qui investissent dans les équipements permettant de répondre aux besoins de la sécurité exprimés par les habitants et elle souhaite le développement de la vidéoprotection permettant la sécurisation des espaces publics, la sécurisation des abords des gares routières et ferroviaires, la sécurisation des abords des lycées. L'aide concerne l'acquisition, l'installation et le raccordement des caméras jusqu'aux équipements de restitution et de traitement des images et la création d'un centre de supervision urbain. À cet effet, la commune a souhaité compléter et moderniser son système de vidéoprotection actuel et un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage a été confié à la société Technoman. Au regard du montant total du projet estimé, il a été décidé de décomposer en trois phases sur les exercices budgétaires 2023, 2024 et 2025. La phase 2, qui devrait être réalisée en 2024, est estimée à 129 506 euros hors taxes. Dans le cadre de l'intervention régionale pour la sécurité des Auvergnats et des Rhônes-Alpins, ces dépenses peuvent être subventionnées selon les modalités financières suivantes. Le taux d'intervention régionale maximum est de 50% des dépenses éligibles hors taxes uniquement en investissement. Le plafond des dépenses est de 15 000 euros hors taxes par caméra et 1 500 euros par borne. Le taux total de financement public par dossier ne pourra excéder 80%. L'aide régionale maximum est de 100 000 euros par commune et par an. Le budget prévisionnel de la tranche 2 est donc le suivant. Montant total de l'opération 129 506 euros hors taxes. Financement de la région 64 753 euros hors taxes. Financement de la commune 64 753 euros hors taxes. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à solliciter auprès de la région une demande de subvention estimée à 64 753 euros pour financer la phase 2 de l'extension du système de vidéoprotection et d'autoriser M. le maire à signer tous les documents s'y rapportant.
Donc c'est la deuxième phase annuelle hein, de développement de la vidéoprotection, telle qu'on l'avait déjà envisagée fin 2022. Alors c'est vrai, hein, j'en avais parlé, qu'il n'est pas exclu, bon ça c'est ce qui est programmé, qu'on soit en situation d'envisager peut-être d'installer d'autres caméras, et je pense en particulier aux abords du lycée Nord, compte tenu des problématiques d'incivilité et de délinquance qui peuvent s'y développer. On verra à ce moment-là avec la région, puisque en conseil métropolitain, Sylvie Fayolle, qui est la présidente par intérim, nous a annoncé que M. Wauquiez avait annoncé une enveloppe dédiée à Saint-Étienne Métropole et que parmi ce fonds global de 45 millions, il y aurait une enveloppe spécifique pour les 53 communes, pour la vidéoprotection. Donc on va voir comment ça va se coordonner. Ça, c'est notre plan à nous de développement sur la commune. Des questions par rapport à ça ? Donc vous avez compris, on va chercher 50% des devis estimés. Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Et pour, à l'unanimité, cette demande est adoptée. Le point suivant concerne le déplacement des cours de tennis. Donc, en sa qualité d'interlocuteur privilégié des collectivités, afin de promouvoir une solidarité en faveur de tous les Ligériens, le département a décidé en 2022 de renouveler le dispositif enveloppe commune urbaine. Le principe est de prévoir un appel à projet spécifique sur la période 2022-27 avec l'accompagnement d'un seul dossier par commune pour des projets en lien avec les compétences départementales et notamment les équipements sportifs. La commune de Saint-Priant-Jarret est dotée de deux cours de tennis couverts au sein du complexe sportif de la Bergette et de deux cours de tennis extérieurs situés en centre-bourg. Compte tenu de la vétusté de ces deux derniers cours, de leur éloignement des installations du club de tennis, la commune souhaite les supprimer et en créer de nouveau, plus un terrain de paddle sur le site du complexe sportif de la Bargette. Le plan de financement prévisionnel de cette opération est le suivant. Vous avez le détail. Étude de sol, 6 882. Construction de cours de tennis et de paddle, 268 458. Fondation spéciale, 48 000. Soit un total de 323 340 euros. Avec un financement 50% le département pour 161 670 euros et la commune pour 161 670 euros, soit 323 340 euros. La commune étant maître d'ouvrage de cette opération, il est demandé au conseil municipal de prendre acte de l'engagement de la commune dans le projet défini ci-dessus, d'approuver le plan de financement tel que décrit précédemment, d'autoriser le maire à solliciter une subvention auprès du conseil départemental dans le cadre du dispositif enveloppe commune urbaine et de m'autoriser à signer tous les documents se rapportant à la demande de subvention. Alors, en arrivant en 2020, nous avions rencontré comment les bénévoles du tennis qui avaient un beau projet, on vous l'a présenté, hein, sur le développement de leurs activités, en particulier envers les enfants et les personnes handicapées. On avait validé. Ils ont connu, comme beaucoup d'associations, l'impact de la crise sanitaire avec une perte importante de leurs effectifs. Ça remonte tout doucement. Ils développent leur projet et, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sont fortement handicapés aujourd'hui avec la neutralisation d'un court de tennis. Donc, comme on s'y était moralement engagé, bon, ben, on essaye pour 2024 de prévoir le déplacement des courts extérieurs sur le site de la Bargette en y associant un court de paddle, puisque c'est quelque chose qui est très demandé en ce moment, qui se développe énormément et pour lequel il y a des financements dédiés importants. Donc là, on vous fait passer une décision qui est importante parce qu'on va tout de suite aller solliciter le département, vous l'avez compris, mais sur des bases budgétaires qui sont peut-être bien en deçà de la réalité. Concrètement, les courts de tennis, aujourd'hui, on a un retour technique. Au bord du Furan, il va falloir les créer sur pieux et surtout procéder à un nouvel enrangement du Furan. Donc on va voir ce que ça va donner quand on aura les retours des devis définitifs. J'ai rencontré lors de l'Assemblée Générale les gens du tennis et je leur ai dit que nous, on allait essayer, je dis bien essayer de respecter notre engagement sur 2024, ça veut dire trouver le financement, mais que eux, de leur côté, devaient jouer la carte de leur fédération respective, y compris au niveau national et y compris au niveau des ministères. Quant à notre député, il s'est engagé également à nous accompagner dans ces démarches. Donc voilà, l'idée, c'est qu'on active ce dossier. Peut-être qu'au bout du compte, on ne pourra pas le réaliser, parce que techniquement, ça sera inenvisageable, on verra. Peut-être qu'on ne fera qu'une partie, peut-être qu'on ne fera qu'un court de tennis et un padel, je ne sais pas du tout. La faisabilité, elle est d'abord tributaire de notre budget, puisqu'il est avéré qu'on va pouvoir techniquement le faire, mais dans quelles conditions financières, c'est un autre problème. On en parlera très prochainement en début d'année. Donc voilà, l'idée, c'est de immédiatement matérialiser une demande auprès du conseil départemental, sachant que eux, quand on aura bien sûr des chiffres définitifs, iront solliciter leur fédération et leur ligue. Des questions par rapport à ça? Oui, Hubert.
Hubert. Donc, je ne suis pas contre la reconstruction du court de tennis ni du padel, mais je vois que l'enrochement, tout ce terrain va être construit sur pieux, qui fait donc une somme assez importante. Il n'y aurait pas un autre endroit pour le construire, ce padel?
Alors, on ne va pas construire. En fait, l'idée, c'est de déplacer potentiellement les deux courts de tennis extérieur qui sont derrière le NEC. C'est là où il y a le tennis. Parce que eux, pour gérer, ils gèrent un court, deux courts couverts. L'idéal, c'est qu'ils puissent gérer également des courts extérieurs. La place existe. Derrière, au fond du terrain de foot, la place existe. Techniquement, c'est faisable. Après, ça demande une certaine technicité. Bien. Après, le paddle, il ne va pas forcément être construit au bord du Furan. Il peut être construit peut-être juste à la sortie des salles fermées. Je ne sais pas. Alors, le paddle, la demande, elle est maintenant récurrente parce que ce n'est pas le même profil. Entre ceux qui pratiquent le paddle et le tennis, il y a un engouement pour le paddle. Il y a des financements dédiés très importants. Vous avez vu qu'à la Tour en Jarret, ils viennent de créer deux courts de tennis en bas sur la route avec un paddle. Et partout, on voit fleurir ces paddles. L'idée, c'est qu'à travers le paddle, ils puissent attirer des pratiquants après, dans un second temps, du tennis, mais ce n'est pas les mêmes profils. Donc, en termes de faisabilité, on a regardé là où on pouvait. On ne va pas le mettre dans le Pressagnol. Il y a déjà des arbres qu'on a plantés. Bon, c'est trop tard. Puis c'est un peu en pente. Donc voilà, c'est une approche pragmatique. Il y a le club de tennis de Saint-Prié qui est installé en bas, à côté du foot. Il y a de la place. On doit pouvoir le faire. Après, on va voir. Techniquement, aujourd'hui, sur des pieux, avec des couches susceptibles de drainage, ça doit pouvoir se faire, mais à quel prix? On attend ça. Voilà. Et quant au paddle, ça sera un petit peu la cerise sur le gâteau, parce qu'on n'est pas forcément obligé d'installer à côté des cours de tennis, mais peut-être juste à la sortie des cours intérieurs aujourd'hui. On va voir. D'autres questions par rapport à ça? Donc on va mettre aux voix. Donc là, c'est la demande de subvention. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire. Et ça veut dire qu'on va demander au département de s'engager à nos côtés financièrement. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité. Cette demande de subvention est validée. Christine va nous parler du réaménagement de la médiathèque André Chaise.
Oui, tout à fait. Donc, avant de vous lire la délibération, je pense que vous connaissez tous la médiathèque de Saint-Priest, médiathèque André Chaise. Donc, il y a trois secteurs. Un secteur jeunesse, qui, comme vous le savez, est carrément à l'opposé de la banque de prêts. Donc, c'est très difficile pour les parents de venir consulter du personnel, enfin les bibliothécaires, parce que les enfants sont carrément de l'autre côté. Donc là, je vous parle un petit peu. On a surtout organisé, elle était organisée surtout pour surveiller aussi les vols. Et ce qui se vole le plus, c'était les CD et les DVD. Donc c'est pour ça qu'ils étaient centraux, les CD et les DVD. Mais quand on recevait soit des auteurs ou soit on veut faire quelque chose, on doit pousser tous les bacs de CD et DVD. C'est compliqué pour elles. Ensuite, il y avait un espace dédié pour la lecture, je sais pas si, qui est tout petit, qui est vraiment très, très petit. Et sachant que la médiathèque, elle reçoit énormément les classes, les enfants de la crèche, le pôle enfance-jeunesse, il fallait vraiment un espace dédié pour accueillir tous ces enfants. Voilà, donc il y a une réflexion qui s'est faite. Nous avons demandé un diagnostic auprès du département. Et son retour, je vais vous le lire parce que vous ne l'avez pas de toute façon. La médiathèque est installée depuis 1989 avec une extension en 2013. L'extension n'a pas donné lieu à un réménagement global. Aussi, la banque de prêts est en face de l'entrée et excentrée par rapport au lieu. Il est conseillé de la déplacer afin qu'elle reste en vue de l'accès mais soit plus centrale. Les étagères sont elles aussi assez ancienne, il est conseillé d'en renouveler une partie. Le coin lecture-réception pourrait être déplacé au fond de l'extension afin de ne pas occasionner de gêne lors d'intervention. Puisque lorsqu'on accueille les classes, la médiathèque est ouverte au public. Donc c'est très gênant que les parents passent et les enfants un peu partout. Donc il serait intéressant d'engager une réflexion globale sur l'aménagement afin de positionner la banque de prêts et les différents éléments au mieux. Il serait même intéressant de renouveler une partie du mobilier. Voilà, ça c'était le compte-rendu, enfin, je vous ai fait succinct, de l'architecte du département, Madame Christelle Chavana. Donc en 2022, nous avons lancé une consultation, et Monsieur Comte, qui est designer, qui a une bonne expérience en matière de lecture publique, nous a prévu donc il a fait une étude que nous avons commandée. Il est venu une journée et demie à la médiathèque pour voir et observer ce qui se passe. Donc c'était important aussi que lui il se fasse son point de vue là-dessus, comment les gens, les enfants, etc. Donc ils ont passé une journée et demie à la médiathèque. Ensuite, nous avons prévu un groupe de personnes, nous avons fait des ateliers. Et dans ces ateliers, il y avait des usagers. Il y avait même Jean-Pierre Roll, le directeur des services techniques, le personnel de la médiathèque, bien sûr, et moi-même. Donc, dans ces deux ateliers, on a regardé un petit peu ce qui était important pour nous, les usagers, pour la médiathèque, pour les bibliothécaires aussi. Et la restitution de l'étude s'est faite en avril 2023. Et selon les observations du groupe de travail, la maquette est revue parce que certaines personnes avaient prévu de déplacer la porte d'entrée de la médiathèque. Mais là, ça devenait un peu trop cher. Donc, nous gardons l'entrée de la médiathèque là où elle se trouve. Nous cheminons vers une banque de prêts conservée, mais déplacée au centre du bâtiment. On va vous projeter tout à l'heure En arrivant, les lecteurs voient les collections graphiques, les collections novatrices et attirantes. Et ça, c'était un point important qui avait été souligné par les lecteurs. Lorsqu'ils viennent, ils aiment bien voir les nouveautés, pour les accrocher, enfin, ce qu'ils recherchent souvent. Et un espace multifonctionnel dédié à l'animation est conçu vers le plus beau point de vue de la médiathèque, c'est-à-dire là où il y a l'espace actuel pour les enfants. C'est là où on a une superbe vue. Et effectivement, les enfants, ils n'en profitent pas parce qu'eux, ils sont tout petits. Donc, voilà. Donc, ça sera revu. Voilà, donc je vais vous... on va peut-être vous... on présente les... C'est bon pour toi ? Donc voilà, ça sera la médiathèque revue. Donc vous voyez ça, l'espace. Ouais. T'as pas ton petit truc? Alors ça c'est voilà, l'entrée elle reste identique. Ici c'est la banque d'accueil qui sera là. Ici, alors là, donc en fait on a trois scénarios. Là c'est le grand espace jeux vidéo. Donc ici il y a une étagère qui pivotera. Là, il y aura un grand espace de jeux vidéo. Et tout, ici, le long des vitres. Je suis en train de me dire que je ne parle pas dans le micro. Excusez-moi. Le long des vitres, il y aura des tables avec des chaises hautes pour lire ou pour travailler. Mais tout cet espace-là, il est dédié à l'animation aussi. Donc, tu peux envoyer l'autre, voilà. Pardon. Donc là, hop, c'est le petit espace. Vous voyez ça, ici, ce que je vous montre là, c'est l'étagère qui pivote avec un écran ici. Voilà. Donc là, c'est pour l'accueil des classes, etc. Voilà. Et là, c'est lorsqu'il y a une conférence ou lorsqu'elle reçoit aussi, lorsqu'il y avait des films, je ne sais pas si vous aviez vu les vieux films l'autre fois. Voilà, donc là, c'est projeté là et tout cet espace sera dédié. Mais ça ne sera pas à déplacer comme c'était actuellement les CD, les DVD, tout ce qu'elle devait déplacer à chaque fois qu'il y avait. Voilà. Et quand on arrive ici, et les enfants seront de ce côté-là, là où il y avait la banque de prêts. Oui, la banque, elle est en bas. Ouais, ouais. Oui. Plus centrée, en fait. Voilà. Donc, je vais vous lire la délibération maintenant. Je retrouve. Monsieur le maire expose. En 2022, la commune souhaitera aménager la médiathèque André Chaise, une étude de programmation et de définition d'espace sous la forme d'ateliers participatifs a été confié aux agences Julien de Souza et Gulliver Design. Les objectifs de la mission étaient les suivants. Par le biais de différents outils de co-conception, imaginer l'évolution de la médiathèque et définir les besoins d'intervention sur l'espace d'accueil. Faire apparaître une nouvelle organisation spatiale possible en accord avec de nouveaux usages associés aux enjeux tirés du temps préalable d'observation. S'assurer que les nouveaux besoins projetés s'articulent dans le futur plan d'aménagement. Qualifier les besoins par secteur et espace. Éprouver spatialement l'organisation projetée sous la forme d'un pré-maquette. La synthèse de ces ateliers et les différents scénarios qui en découlent ont été présentés au groupe de travail et le projet final de réaménagement joint à la présente a été validé par les élus. Monsieur le maire rappelle également les enjeux sociaux, culturels et économiques du développement de la lecture publique sur le territoire et toute l'importance des aménagements prévus pour offrir aux usagers de la médiathèque un lieu correspondant à leurs besoins et leurs attentes. Donc, le plan de financement prévisionnel de cette opération est le suivant. Étude programmatique, 12 860 euros. Nouveau équipement mobilier, 44 210. Valorisation et adaptation du mobilier existant 4000, matériel pour l'espace jeu 1044 euros, notice accessibilité et sécurité 1000 euros, travaux courants forts et faibles 1000 euros, ce qui nous fait un total de 64 119 euros. Les financeurs, il y a l'État, la DRAC, pour 32 060 euros, le département pour 12 000 euros, et la commune de Saint-Priant-Jarret pour 20 059. La commune étant maître d'ouvrage de cette opération, il est demandé au conseil municipal de prendre acte de l'engagement de la commune dans le projet défini ci-dessus, d'approuver le plan de financement tel que décrit précédemment et d'autoriser le maire à solliciter une subvention auprès du conseil départemental dans le cadre de l'appel à partenariat développement des bibliothèques au titre de l'année 2024, d'autoriser le maire à signer, monsieur le maire, pardon, à signer tous les documents se rapportant à la demande de subvention.
Des questions? C'est un projet qui a quand même été initié fin 2022 avec les premières études. Donc il y a eu du travail tout au long de l'année. Donc là, on est en phase de finalisation. Après, bon, l'agencement, il a été fait par des, d'abord par des utilisateurs, par les gens qui travaillent régulièrement et par des concepteurs. Bon. Des questions par rapport à ça? Vas-y. Oui. Jacques Pellegrin.
Oui, bonsoir. Le projet me semble très bien cartésien et cohérent. Il est parfait. Le montage financier est attractif. Par contre, à l'exécution, on a un atelier de menuiserie dans la commune. Il faudra absolument que, pour la part qui est la part communale, on intègre une fabrication en interne de manière à limiter un petit peu les frais. À titre indicatif, moi, l'isolation de la Villa Saint-Michel, c'est 13 000 euros. Et je ne peux pas, toujours pas le faire. Donc, il y a aussi des choses qui nous tiennent à cœur et qui sont nécessaires et qui sont importantes. Et que, voilà, il y a des priorités à donner. Donc, moi, je pense que le projet est bien, mais il faudra qu'on fasse en interne pour limiter la dépense.
Alors, le recours à notre atelier menuiserie, bien évidemment, puisque c'est eux qui avaient fait en particulier l'accueil ou la salle d'accueil du foot. Simplement, on avait deux menuisiers, il y en a un qui est parti. Hein. Donc, on n'en a plus qu'un. Et vraisemblablement, qui va partir à la retraite d'ici un an. Voilà. Donc là aussi, en termes de travaux à effectuer au niveau de la menuiserie, il va falloir que les services techniques priorisent l'ensemble de ce qu'il y a à faire. Mais oui, effectivement, on essaye de faire au maximum en régie ce qu'on peut faire. D'autres questions? Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? On valide ce projet de réhabilitation de la médiathèque André Chaise, et je vous remercie. Point suivant, on est toujours dans les règles comptables, vous avez compris qu'on a basculé là depuis le mois de septembre dans de nouvelles règles, de nouvelles circulaires, de nouveaux référentiels qu'il nous faut valider. Michel, à toi.
Alors effectivement, donc suite, ça fait partie des délibérations qui sont à prendre obligatoirement suite à la mise en place de la nomenclature M57. Donc, par délibération 23-11-18, donc au mois de novembre, la commune de Saint-Priest-en-Jarret a adopté le référentiel budgétaire et comptable M57 à compter du 1er janvier 2024. Conformément aux dispositions de cette nomenclature et aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, la collectivité doit se doter avant toute délibération budgétaire relevant de l'instruction M57, donc effectivement avant le 1er janvier, d'un règlement budgétaire et financier, RBF, valable pour la durée de la mandature. Ce règlement formalise et précise les principales règles budgétaires et financières qui encadrent la gestion de la commune et permet de regrouper dans un document unique les règles fondamentales auxquelles sont soumis l'ensemble des acteurs intervenant dans le cycle budgétaire. En tant que document de référence, il a pour principal objectif de renforcer la cohérence et l'harmonisation des pratiques de gestion. Le règlement assure la permanence des méthodes et la sécurisation des procédures. Il pourra être actualisé en fonction de l'évolution des dispositions législatives et réglementaires et pour tenir compte de la nécessité d'adapter les règles de gestion. Alors, je vous lis la totalité du règlement? Non, non, on va essayer d'éviter. Non, les principales, en fait, ce règlement, c'est pour uniformiser un peu les procédures. Alors, je vous invite, les gens qui sont intéressés par la comptabilité, à le lire quand même, parce qu'il est très intéressant, parce que ça explique bien la comptabilité publique. Alors, c'est pas très... Si vous souffrez d'insomnie, vous pouvez essayer. Mais franchement, ça donne des réponses à... Moi, je l'ai lu en entier et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont très, très, très intéressantes. Alors, il faut savoir que ce règlement, il est adopté pour la mandature, c'est-à-dire qu'il s'arrêtera automatiquement lors des élections, aux prochaines élections municipales. Et ils en adopteront un autre. La nouvelle équipe en adoptera un autre en mars 2026. Et il entrera en vigueur au 1er janvier 2024. Alors, il y a des choses qui restent comme c'était actuellement dans la M14, c'est-à-dire le principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable. Vous savez que dans une comptabilité privée, il y a une comptabilité double part. Nous, on a une comptabilité unique, mais la double part est tenue par le trésorier, par le comptable du trésor. Donc, en fait, la séparation ordonnateur et comptable, ça veut dire que le maire qui ordonne de payer, c'est-à-dire l'ordonnateur, n'est pas celui qui paye. Celui qui paye, c'est le trésorier payeur, parce que vous savez que nous, dans les communes, on n'a pas ni de carnet de chèques, ni d'argent. Le budget, c'est un acte de prévision et d'autorisation, hein, vous le savez. C'est pour ça qu'on fait des délibérations modificatives, parce que la prévision n'est pas toujours juste. Et la comptabilité est tenue en partie double, c'est ce que je vous expliquais, par un comptable du trésor. Alors, l'ensemble des dépenses et des recettes doit figurer dans un document unique, c'est bien entendu notre budget. Alors, deux choses aussi qui sont importantes et qui sont maintenues, c'est que les dépenses et les crédits votés sont limitatifs, c'est-à-dire que en dépenses, on est obligé de dépenser dans la limite de ce qu'on a prévu au budget. Si on a, il nous reste 100 au budget, on dépensera pas 120. Hein. Le comptable s'y opposera. Par contre, en recettes, effectivement, on peut, c'est des prévisions, mais on peut dépasser, elles peuvent être supérieures aux prévisions. Alors, qu'est-ce qui a changé en fait Ce qui a changé par rapport à la M14, c'est deux choses essentiellement. C'est ce qu'on a déjà voté la dernière fois, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, dès qu'on voulait modifier, vous savez, comme se présente un budget, on a des comptes qui sont regroupés en chapitres. Et on a un chapitre qui s'appelle les charges, qui s'appelle le 011, qui sont toutes les charges générales. Et on a d'autres chapitres, le 65, enfin voilà, qui sont d'autres dépenses. Et on n'avait pas la possibilité, en fonctionnement, de modifier, autant à l'intérieur d'un chapitre, si on dépasse par exemple en électricité, mais qu'il nous reste de l'argent en papeterie, c'est pas grave, c'est dans le même chapitre, ça passe, il n'y a pas de souci. Par contre, d'un chapitre à un autre, on ne pouvait pas. Maintenant, avec la M57, on peut effectivement, dans la limite de 7,5% des dépenses, basculer d'un chapitre à un autre, sauf un chapitre qui n'est pas concerné, c'est le chapitre 012 des charges de personnel. Voilà. Et qu'est-ce qui change aussi? Ça sera qu'il y aura... Alors, ce n'est pas adoptable au 1er janvier 2024. Normalement, ça devrait l'être, mais je pense que ce n'est pas encore au point. Vous savez que toutes les années, quand on vote le budget, quand on vote le compte administratif, on a le compte administratif d'un côté, je vais y arriver, et le compte de gestion du trésorier de l'autre, dont les chiffres doivent être identiques. Sinon, c'est qu'il y a un souci. Mais en général, on s'arrange toujours avant de les passer en délibération pour que les chiffres soient identiques. Là maintenant, ça s'appliquera chez nous qu'en 1er janvier 2025, il y aura un document unique qui regroupera à la fois la gestion de la commune et la gestion du trésorier. On n'aura plus deux comptes différents. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose de changé, mais maintenant, c'est finalisé par effectivement un règlement budgétaire et financier qui n'existait pas avant, mais qui reprend en fait toutes les grandes règles de la comptabilité communale. Donc, le maire propose au conseil municipal d'adopter ce règlement budgétaire et financier de la ville de Saint-Priest-en-Jarret, annexé à la présente délibération, à compter du 1er janvier 2024.
Des questions? Ça apporte un petit peu plus de souplesse dans la gestion comptable, quand on peut transférer entre sections, et puis le fait qu'on vous présentera un compte de résultat, un compte de gestion, comme vous voulez. Qui se concernera aussi bien la nôtre que celle du receveur. C'est bon? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, on valide ce nouveau règlement à l'unanimité. Je vous en remercie. Ensuite, je passe la parole à Mireille.
C'est une subvention exceptionnelle pour l'Association des jardins familiaux. En fait, il y a une nouvelle règle de Saint-Étienne Métropole. En fait, on n'enlève plus les déchets dans les jardins familiaux, dans les associations des jardins familiaux. Et on a donc une subvention exceptionnelle qui va leur être accordée pour les aider à acheter du matériel, pour gérer eux-mêmes leurs déchets verts. Donc, je vous lis la délibération. Monsieur le maire expose, pour faire suite à la nouvelle politique de Saint-Étienne Métropole de ne plus enlever les déchets verts dans les associations de jardins, l'association des jardins familiaux a dû mettre en place une gestion des déchets verts. Je vous propose de verser une subvention exceptionnelle de 500 euros à l'association des jardins familiaux pour l'achat d'une tondeuse à gazon et d'un broyeur de branches pour valoriser les déchets verts des jardins en compost et le distribuer aux adhérents.
Alors, deux petites précisions. La première, c'est que, on peut le dire, hein, c'est une demande qui avait été faite dans les délais au début de l'été et qu'on avait oublié de vous présenter. Donc, ils ont fait leur demande dans les délais, même si c'est un caractère exceptionnel. Donc, c'est logique qu'on la représente maintenant. Puis, je voulais demander à Claude Bougot s'il avait quelque chose à dire par rapport à ça, par rapport à ce besoin.
Des besoins, il y en a toujours. Hein. Non, il n'y a pas de besoin particulier. Ce qu'il y a, c'est que le souci, c'est de maîtriser la technique des lasagnes. C'est-à-dire les lasagnes, au lieu de mettre dans un composteur, on étale par terre en andin au fur et à mesure. Il faut bien que les déchets soient broyés comme il faut et mis en place avec plusieurs couches de branchages, de feuilles, de déchets de végétaux. Donc ça demande une petite mise en place au niveau des jardiniers. Donc ils peinent en ce moment à le faire comme il faut. On a fait plusieurs réunions avec Saint-Étienne Métropole et la FNE avec des maîtres composteurs pour leur expliquer le fonctionnement. Donc je pense que ça va se mettre tout doucement en place.
Très bien, donc... On va mettre au vote cette subvention exceptionnelle de 500 euros pour qu'ils puissent s'équiper. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc à l'unanimité, on leur accorde. Puisqu'on parlait des jardins, on peut parler des fleurs. Simplement une précision, nous n'aurons pas la seconde fleur que nous attendions avec beaucoup de circonspection. Je ne ferai pas de commentaires sur les conditions de ce jury et leurs arguments d'appréciation. Michel.
La dernière délibération financière, c'est la décision modificative numéro 2 sur le budget de la commune. Vous savez, on en avait voté déjà une sur le mois de novembre. Cette décision modificative numéro 2 est nécessaire par rapport aux travaux de rénovation et d'extension du groupe Jules Ferry, puisque différentes entreprises avaient demandé le versement d'avance. Vous savez, c'est possible quand on a un gros marché de demander l'avance avant que les travaux soient complètement effectués et surtout avant qu'ils puissent faire le mandatement, parce qu'eux, ils ont quand même du matériel à acheter, des choses comme ça. Et par contre, au fur et à mesure, après qu'on mandate les travaux, on doit récupérer ces avances. Donc, elles ont été mandatées au chapitre 23 et elles doivent être progressivement remboursées par l'entreprise dès lors que le montant cumulé des situations présentées au mandatement atteint 65% du montant total des lots. Et effectivement, pour permettre d'enregistrer comptablement les... Alors, c'est un peu compliqué. En fait, c'est toujours pareil. Il faut toujours qu'il y ait un équilibre entre les dépenses et les recettes. On ferait ça chez soi. On aurait fait l'avance de 500 euros sur une facture de 2000 euros. On paierait la somme de 1500 euros et le total serait fait. Dans la comptabilité publique, c'est pas possible. Il faut qu'on paye la totalité des dépenses. C'est-à-dire, même si on aura fait une avance, on la compte pas et on fait la totalité de la facturation. Et eux, par contre, doivent nous rembourser les avances. C'est pour ça qu'on doit avoir une somme de 79 150 euros en recettes d'investissement pour récupérer les avances et avoir les 79 150 euros dont on a eu besoin pour leur payer ces avances. Voilà. En fait, c'est juste une écriture comptable. Ça modifie absolument pas le montant de ce qu'on verse aux entreprises, mais c'est nécessaire. C'est toujours pareil, c'est la comptabilité publique. Voilà. Donc, on vous demande d'approuver cette décision modificative numéro 2.
Quand on peut faire simple. Bon. Donc, qui est contre? Qui s'abstient, qui est pour, à l'unanimité, on valide cette règle particulièrement intelligente. Et je vous en remercie. Je vais prendre la main maintenant sur les problématiques de personnel communal. Vous savez qu'on vous présente ces décisions au fil des conseils maintenant, et compte tenu des demandes formulées par nos tutelles. Conformément à l'article L313.1 du Code général de la fonction publique, subdivisés les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou d'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Un adjoint technique municipal de première classe à temps complet est radié des cadres pour mutation à compter du 1er décembre 2023. Pour permettre d'engager la procédure de recrutement, il est nécessaire d'ouvrir un poste d'adjoint technique principal de deuxième classe. Donc on sort le premier classe et on recrute un deuxième classe. Un adjoint administratif principal de deuxième classe à temps non complet à raison de 75% du temps plein est détaché auprès de la CRS, etc. de Saint-Étienne, donc la police, à compter du 1er décembre 2023, pour pallier son remplacement, donc à 75% de temps de travail, et la réorganisation du service enfance-jeunesse, il est nécessaire de supprimer son poste et d'ouvrir un poste d'adjoint administratif à temps non complet à raison de 22h23, soit 63,97% du temps plein. Donc vous avez compris, on sort un 75% et on crée un 64%. Donc je vous propose la création des postes précités en application des articles L332-13 et L332-14 du Code général de la fonction publique à compter du 18 décembre 2023. Un poste d'adjoint administratif à temps non complet à raison de 63,97% du temps plein et un poste d'adjoint technique principal de deuxième classe à temps complet et de porter les emplois permanents ouverts de la commune comme annexé. Donc c'est l'actualisation des tableaux que vous avez maintenant pratiquement tous les mois. Des questions par rapport à ça ? Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc on actualise les emplois permanents et on valide ces créations de postes. Et je vous en remercie. Le dernier point prévu à l'ordre du jour, c'est celui de la rémunération des heures d'études. Je vous rappelle que la commune confie aux professeurs des écoles l'encadrement des études surveillées, fonctionnaires d'éducation nationale, enseignants, qui sont rémunérés par la commune dans le cadre de la réglementation sur les activités accessoires. Les communes ont en effet la possibilité de faire appel à ces personnels pour assurer des tâches de surveillance et d'encadrement. La réglementation est fixée par le décret 82-979 du 19 novembre 1982, précisant les conditions d'octroi d'indemnité par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'État. La rémunération versée sera égale au montant des indemnités fixées par le décret 66-787 du 14 octobre 1966, fixant le taux de rémunération des travaux supplémentaires effectués par les enseignants des écoles en dehors de leurs services normal. Les montants plafonds de rémunération s'établissent ensuite. Donc, ce sont les heures d'études surveillées. À partir du 1er février 2017, c'est un taux maximum. Pourquoi 2017 ? C'est bon. Et on est régi encore par des textes de 66. Enfin, bref. Donc, pour les instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d'école élémentaire, le taux horaire maximum est de 20,03 €. Pour les instituteurs exerçant en collège, 20,03 € également. Et pour les professeurs des écoles classe normale exerçant ou non des fonctions de directeur d'école, 22,34 €. Et pour les professeurs des écoles hors classe exerçant ou non des fonctions de directeur d'école, 24,57 €. Donc je vous propose de faire assurer les missions d'encadrement des études surveillées au titre d'activités accessoires par des enseignants contre une rémunération égale au montant des indemnités fixées par le décret 66-787 du 14 octobre 1900, c'est pas 96, c'est 66, je pense. Ouais, c'est 66. Fixant les taux de rémunération des travaux supplémentaires effectués par les enseignants des écoles en dehors de leur service normal. Sachant qu'il y a deux écoles, Georges Sand et Jules Ferry, où les instituts jouent le jeu des études surveillées. Et à Jean Massé, on n'en a qu'un qui fait les études surveillées. Voilà. Voilà, donc c'est la validation tarifaire pour les études qui ne concerne que les enseignants. Des questions par rapport à ça ? Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? On valide donc ce taux horaire. On vous rappelle que le 8 janvier 2024 à 19h au NEC, il y aura les vœux à la population. Vous avez un document qui vous a été distribué. Et le 10 janvier 2024 à 18h en mairie, en salle d'honneur, ici même, donc, les vœux à monsieur le maire et à son conseil municipal de la part de nos collaborateurs. Je vous rappelle que mercredi, à partir de 15h, il y a le Noël intergénérationnel à l'espace loisir de la Bargette. Vous êtes les bienvenus, évidemment. Je vous rappelle également des événements le week-end prochain. Le samedi, à 17h, les chœurs de Saint-Priest se produisent à l'église d'Andrézieux avec les chœurs d'Andrézieux et la chorale d'enfants du conservatoire. Le soir même à 20h se produit l'harmonie avec l'harmonie de Pontcharrat. dans le cadre de ses 30 ans. Et le lendemain, le dimanche, également à 17h, mais cette fois-ci à l'église de Saint-Prix-en-Jarret, les chœurs de Saint-Prix-en-Jarret et ceux d'Andrézieux. Donc voilà des événements qui sont quand même assez, d'un point de vue culturel, riches et attractifs à la veille de Noël. Je voudrais maintenant vous faire deux communications. Alors, je m'étais interrogé de savoir si elles devaient être hors PV, mais je vais les mettre dans les questions diverses, donc elles seront verbalisées. La première concerne le plan Grand Froid Loire Sud. La saison hivernale s'établit entre le 15 décembre et le 15 mars. En fonction des éléments transmis par Météo France, le préfet de la Loire peut déclencher le plan Grand Froid qui impose de protéger les personnes qui vivent dans la rue en leur proposant un hébergement d'urgence, locaux chauffés avec sanitaire, couchage, etc. La préfecture a sollicité 4 communes de la périphérie stéphanoise, Sorbier, Roche-la-Molière, Saint-Genélaire et Saint-Prix-en-Jarret, en leur demandant de mettre à disposition leurs structures sportives, nos gymnases. Les 4 communes ont bien évidemment accepté et une réunion le lundi 4 décembre a permis de définir les modalités pratiques suivantes. Sur les 12 semaines concernées, donc 15 décembre, 15 mars, chaque commune va mettre à disposition son gymnase pendant 3 semaines, vraisemblablement non consécutives. Un planning de mise à disposition est en cours d'élaboration, prenant en compte les contraintes d'utilisation de ces structures par chaque commune, les matchs, les entraînements, les cérémonies, les événements. Le gymnase, ou chaque gymnase, va être équipé de lits, de duvets, de protection des sols, et géré par la Croix-Rouge, l'association Renaître, le SAMU social, donc le 115, et les services de l'État, la DDETS, et des personnels d'encadrement et de sécurité fournis. L'accueil se fera de 19h à 9h le lendemain. Les locaux seront nettoyés chaque jour par une entreprise spécialisée. À titre indicatif, l'an dernier, de décembre 2022 à mars 2023, le plan Grand Froid a été déclenché moins de 10 jours sur toute la période. Pour la commune de Saint-Prix-en-Jarret, cette démarche est apparue comme une évidence. Au nom de la solidarité dont nous avons tant besoin, nous devions de pouvoir accueillir des sans-logis et en particulier des femmes seules ou avec leurs enfants. Notre commune sera prête en cas de nécessité d'urgence hivernale. Mercredi dernier, nous avons rencontré sur place l'ensemble des services pour arrêter les modalités pratiques. Donc voilà, c'est une information que vous pourrez éventuellement relayer et je pense que Bernard sera en capacité de nous faire prochainement un article dans la presse. Alors ça nous crée bien sûr quelques contraintes, mais par rapport à l'expression de la solidarité et aux conditions de vie, et je dirais presque de survie de certaines personnes, ça nous a semblé évident. Alors la question, pourquoi 4 communes? Et comme j'ai dit au préfet quand on s'est vu jeudi, je ne suis pas naïf, mais je crois aux vertus de l'exemple. Et si ça fonctionne bien cette année, j'espère que l'an prochain, d'autres communes s'y associeront. Le deuxième dossier dont je voulais vous parler, qui est plus un côté un peu personnel, mais tant pis, c'est la problématique du dossier Bartabat. Fin 2022, Epora, pour le compte de la municipalité, avait acquis l'ensemble du foncier de l'îlot situé face à la place Jean-Baptiste Père, à côté de la mairie. Devenu propriétaire du bail commercial du tabac, l'Epora a procédé à la résiliation de celui-ci à effet du 31 décembre 2023 et des négociations se sont engagées avec Madame et M. Dos Santos pour fixer le montant de l'indemnité de cessation d'activité liée à la rupture du bail. Ces derniers ont alors décidé d'engager une procédure judiciaire, considérant que le montant proposé, 170 000 euros, puis 190 000 euros, selon les estimations des services des domaines, était insuffisant. Dans un second temps, et à la demande de la mairie et d'une expertise réalisée par un cabinet agréé, une proposition à hauteur de 220 000 euros leur a été faite. Suite à l'absence de réponse à cette proposition, valant juridiquement refus, c'est la mairie qui a directement formulé une proposition aux époux de Santos d'un montant de 250 000 euros qui correspondait aux attentes des intéressés, selon leur dire. Puis après, ça dépend aussi à qui ils le disent. Simultanément, un tiers, qui vient de vendre son tabac en centre-ville de Saint-Étienne, nous a contactés pour nous informer qu'il faisait une proposition de reprise des licences bar et tabac aux époux de Santos pour 40 000 euros et qu'il envisageait de reprendre et développer ses activités dès la construction d'un nouvel immeuble. Nous avons même envisagé une solution pour que cette personne puisse maintenir les activités pendant les travaux. À ce jour, nous n'avons aucune réponse des époux Dos Santos à l'égard de ces deux propositions qui se cumulent, soit 290 000 euros. En conséquence, sans réponse, c'est donc la procédure engagée devant le tribunal qui va suivre son cours, les travaux de démolition étant programmés pour le début 2024. Vous avez là des éléments objectifs pour répondre à toutes les stupidités qu'on peut entendre. Et vous constaterez qu'on est tout à fait à la hauteur des chiffres qu'ils avaient initialement évoqués. Voilà, je ne ferai pas plus de commentaires. Il me reste à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Bien en profiter. On va repartir en 2024. Alors c'est vrai que j'ai eu un petit moment peut-être de flou en septembre parce que je me demandais où on allait. On va continuer à avancer, bien sûr. Avec les difficultés, ben, on les surmontera. Et comme le dit le Dalai Lama, si on ne trouve pas de solution à un problème, c'est qu'il n'y a peut-être pas de problème. Mais nous, on en a des vrais et on trouvera des solutions. Il va falloir qu'on continue à être mobilisé parce que là, bon, la situation que je viens d'évoquer à l'instant, elle m'énerve parce que j'entends dire des choses absurdes du style qu'on veut faire disparaître tous les commerces du centre-bourg, ce qui est faux. Au contraire, on est prêt à aller loin pour maintenir les commerces, voire en accueillir d'autres, que nous allons bloquer tout le centre-bourg, fermer les rues, etc. pendant les travaux. Là aussi, c'est une stupidité. On constate que quand les gens ne savent pas, ils préfèrent inventer plutôt que de se renseigner. Donc je cherche simplement à rétablir des vérités qui sont les nôtres et qui sont les vôtres. Voilà. Je vous remercie. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, ben, si on ne se revoit pas, les concerts du week-end prochain, les différentes manifestations d'ici là, et puis ben, les vœux au NEC en début d'année. Merci à vous. Pensez à prendre des petits dépliants là, sur les écoles et sur le guide des seniors qu'on va mettre avec les colis Noël.